Afrique. Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 4 février 2025. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. À quelques jours d'une rencontre entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame ce week-end en Tanzanie, le M23 a annoncé unilatéralement un cessez-le-feu humanitaire en vigueur à compter de mardi dans l'est de la RDC. Le président américain Donald Trump accueille aujourd'hui mardi à la Maison-Blanche le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Pékin va taxer certaines importations en provenance des États-Unis en réplique à l'entrée en vigueur mardi de droits de douane américains renforcés ciblant les produits chinois. Et dans notre partie magazine, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais nous a accordé une interview. Il répond à la crise dans l'est de la RDC.
On a tiré sur le Rwanda avec des bombes. On a eu 15 morts, plus de 100 blessés, plus de 200 maisons détruites.
Dans quelques instants, vous aurez également notre page économique et les sports. Mais pour l'instant, d'abord, le journal. Le M23 a annoncé unilatéralement un cessez-le-feu humanitaire en vigueur à compter de ce mardi dans l'est de la RDC, à quelques jours d'une rencontre entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame ce week-end en Tanzanie. Kigali exige le retrait de la mission de la SADC. Le point avec Eric Manilakiza.
Le mouvement du 23 mars a aussi annoncé n'avoir aucune intention de prendre le contrôle de Bukavu ou d'autres localités. L'ONU a appelé ce mardi à rouvrir l'aéroport de Goma, théâtre d'affrontements intenses la semaine dernière. L'université de Goma a de son côté appelé les étudiants à reprendre les cours lundi, signalant une volonté de retour à la normale. Selon la présidence kényane, Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame participeront samedi à Dar es Salaam à un sommet extraordinaire conjoint de l'UAC et de la SADC. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit se réunir en urgence vendredi à la demande de Kinshasa pour examiner la crise. À Pretoria, plusieurs centaines de Congolais ont manifesté ce mardi devant la délégation de l'Union européenne pour réclamer des sanctions contre le Rwanda. Depuis la prise de Goma, le M23 et ses alliés rwandais ont progressé dans le sud Kivu. La semaine dernière, le M23 avait déclaré vouloir continuer la marche jusqu'à la capitale congolaise, Kinshasa. Des organisations régionales, des pays médiateurs comme l'Angola et le Kenya, l'ONU, l'Union européenne et la communauté internationale tentent de trouver une issue diplomatique à la crise, craignant un embrasement régional.
En Guinée, un collectif pour la liberté de la presse a exprimé sa profonde inquiétude 2 mois après la disparition d'un journaliste d'investigation critique du pouvoir militaire. Habib Marouane Camara a été enlevé dans des circonstances alarmantes, suscitant des craintes quant à sa sécurité et à son bien-être, explique le collectif de journalistes Alumni Guinée dans un communiqué lundi soir, dénonçant une atteinte grave aux droits humains et à la liberté de la presse. Nous reviendrons sur cette info dans notre partie magazine. 14 personnes accusées d'avoir pris part aux manifestations contre le régime togolais en 2018, emprisonnées depuis leur arrestation, ont été condamnées à 10 ans de prison par la cour d'assises de Lomé dans la nuit de lundi à mardi. Les accusés ont été reconnus coupables de complot contre la sécurité intérieure de l'État et délit de groupement de malfaiteurs pour avoir participé à une manifestation de l'opposition en décembre 2018, malgré l'interdiction des autorités. 4 autres accusés en fuite ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle assortis d'un mandat d'arrêt international. 5 personnes ont été tuées mardi dans des tirs contre l'une des dernières installations médicales en service à Omdurman, ville voisine de Khartoum, a déclaré une source médicale qui a imputé l'attaque aux paramilitaires. Cette source à l'hôpital Al-Nao, qui a requis l'anonymat, a indiqué que des bénévoles travaillant pour l'établissement figuraient parmi les 5 morts. Au Kenya, 12 mineurs sont pris au piège à la suite de l'effondrement lundi soir d'une mine d'or dans l'ouest du pays, a déclaré mardi un responsable de la police. Il y avait environ 20 mineurs au moment de l'effondrement de la mine, mais 8 ont été secourus, a déclaré mardi Daniel Makumbu, un responsable de la police du comté de Kakamega, où l'accident a eu lieu, ajoutant que les recherches et les opérations de secours sont en cours.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump accueille ce soir à la Maison-Blanche le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Les négociations entre le Hamas et Israël sur la deuxième phase de leur accord de trêve dans la bande de Gaza ont commencé au Qatar. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
D'après Abdel Latif Kanou, porte-parole du Hamas, les contacts et négociations pour la deuxième phase ont commencé par médiateurs interposés. Israël dit avoir envoyé en fin de semaine une délégation au Qatar pour discuter du cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier dans la bande de Gaza. Le Qatar est l'un des trois pays médiateurs entre Israël et le Hamas avec l'Égypte et les États-Unis. Le président Donald Trump a dit hier n'avoir aucune garantie que le cessez-le-feu à Gaza se prolonge. Après la première phase, le Hamas détiendra encore une cinquantaine d'otages morts ou vivants. La deuxième phase doit permettre la libération de ces derniers otages et la fin définitive de la guerre. Donald Trump a récemment proposé de transférer les Palestiniens de Gaza dans des lieux plus sûrs, comme l'Égypte ou la Jordanie, qui ont refusé. En quittant Israël, Benjamin Netanyahu a jugé qu'en travaillant étroitement avec Trump, il serait possible de redessiner encore davantage la carte du Moyen-Orient. Le président américain s'est entretenu samedi dernier avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et va recevoir le 11 février le roi Abdallah II de Jordanie.
La Turquie a accueilli sur son sol 15 prisonniers palestiniens récemment libérés dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, a annoncé mardi le chef de la diplomatie turque. Ni la date précise ni le lieu n'ont été précisés. Au cours des 6 semaines de la première phase de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas, 33 otages israéliens au total, dont 8 sont morts, doivent être remis à Israël contre environ 1900 prisonniers palestiniens. La Chine va appliquer à compter du 10 février des droits de douane supplémentaires sur un éventail de produits en provenance des États-Unis, alors que sont entrées en vigueur mardi des surtaxes de 10% décidées par le président américain Donald Trump sur les produits chinois importés aux États-Unis. Le point avec Jean-Roger Billon.
Pékin va imposer à partir du 10 février des droits de douane de 15% sur les importations de charbon et de gaz naturel liquéfié américain, a annoncé le ministère chinois des Finances. Des taxes douanières de 10% seront par ailleurs appliquées aux importations de pétrole américain et à d'autres catégories de biens venant des États-Unis, machines agricoles, véhicules de sport, de gros cylindrés et de camionnettes. Ces mesures ont été annoncées quelques minutes après l'entrée en vigueur mardi d'une augmentation de 10% des droits de douane américains sur l'ensemble des produits importés de Chine, décrété par le président Donald Trump. En parallèle, la Chine a déposé une plainte auprès de l'OMC contre les États-Unis, dénonçant les intentions malveillantes de Washington et a restreint l'exportation de métaux critiques. Elle a aussi lancé une enquête anti-monopole contre Google et placé plusieurs entreprises américaines sur une liste noire.
Dean Morris accueille favorablement la perspective que le président américain Donald Trump examine l'accord conclu par la Grande-Bretagne et l'île Morris sur la souveraineté des îles Chagos. Les États-Unis s'inquiètent de l'influence de la Chine dans la région. Alexandrine Bolognon.
Il serait préférable que Trump examine l'accord, a déclaré au législateur du Parlement le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam. La Grande-Bretagne a conclu un accord en octobre pour céder la souveraineté des îles Chagos à l'île Maurice, tout en conservant le contrôle, dans le cadre d'un bail de 99 ans, de la base militaire de Diego Garcia, la plus grande île de l'archipel des Chagos dans l'océan Indien. Toutefois, le Premier ministre Ramgoolam, élu en novembre, a remis en question l'accord conclu par son prédécesseur qui doit encore être ratifié. Le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio a également fait part de ses inquiétudes, affirmant que l'accord constituait une menace pour la sécurité des États-Unis compte tenu de l'influence de la Chine dans la région. La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle attendait que la nouvelle administration américaine réexamine l'accord. Le Premier ministre Keir Starmer a discuté de la question avec son homologue mauricien la semaine dernière et les deux dirigeants ont réitéré leur engagement en faveur d'un accord.
Le vice-président américain J.D. Vance représentera les États-Unis au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris les 10 et 11 février, a indiqué mardi matin une source diplomatique française. Plus de 80 pays seront représentés lors de cet événement où se réuniront chefs d'État, chefs d'entreprise, scientifiques et membres de la société civile. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Eric Manilakiza.
Au Bénin, l'autorité de régulation des communications électroniques de la Poste RCEP Bénin a infligé de lourdes amendes totalisant plus de 3,3 milliards de francs CFA à Spastel et Move Africa Bénin pour non-respect de la couverture des axes routiers et des arrondissements en 3G et 4G. Les deux sociétés ont un an pour se conformer à leurs obligations. Ces amendes correspondent à 1,5% du chiffre d'affaires de Spastel et Move Africa. Le secteur des mines du Kenya, concentré sur l'or, a connu une forte progression ces dernières années, mais reste mal régulé, les mineurs étant exposés au manque de mesures de sécurité et à des groupes criminels. Selon l'Institut d'études de sécurité ISS, la part légale du secteur minier artisanal au Kenya a contribué à hauteur de 224 millions de dollars à l'économie en 2022. La Chine va imposer à partir du 10 février des droits de douane de 15% sur les importations de charbon et de gaz naturel liquéfié GNL américain. Des taxes douanières de 10% seront par ailleurs appliquées aux importations de pétrole américain et à d'autres catégories de biens venant des États-Unis, machines agricoles, véhicules de sport de grosses cylindrées et camionnettes. Ces mesures ont été annoncées après l'entrée en vigueur d'une augmentation de 10% des droits de douane imposés par Washington à l'ensemble des produits chinois.
Place maintenant pour avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
La Sergiga signe à Wolverhampton.
Oui, le défenseur central burkinabé de 22 ans rejoint le club anglais pour environ 13 millions d'euros de contrat avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Les Wolves renforcent ainsi leurs options défensives en signant Nasser Djiga jusqu'en 2030. Barnabé Cabré, journaliste à Radio Omega à Ouagadougou, au Burkina Faso, revient sur le parcours de la nouvelle recrue des Wolves.
Djiga, c'est un défenseur qui n'hésite pas à aller au charbon. Il aime les contacts, il est bon de la tête. Il faut dire que Djiga, c'est le joueur le plus utilisé par son entraîneur de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et ce n'est pas pour rien si en fin d'année 2024, il a été désigné comme le meilleur joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a évolué à Vitesse FC, c'est d'ailleurs le club qu'il a formé. C'est un club de l'ancien international burkinabé, Mamadou Zongo Dibébéto. Avec Vitesse, il a joué 40 matchs entre 2019 et 2021. Il a joué la CAN Junior 2021 avec les Étalons de Burkina Faso, c'était en Mauritanie. Il signe ensuite au FC Ballon Suisse où il ne joue pas régulièrement. Il est prêté à Nîmes en Ligue 2 française où il se fera remarquer. En 2023, Yacouba Nasser Djiga est prêté une nouvelle fois à l'Étoile Rouge de Belgrade qui le rachète définitivement. Avec le club serbe, c'est près de 50 matchs joués.
Barnabé Cabré, journaliste à Radio Omega.
Autre nouvelle de transfert, Cher Ndour transféré définitivement à Fiorentina.
Le milieu de terrain italo-sénégalais du Paris Saint-Germain, qui évoluait sous forme de prêt au club stambouliote de Besiktas, a été définitivement transféré à la Fiorentina, annonce faite par le club parisien. Cher Ndour, 20 ans, recruté au Benfica Lisbonne pendant l'été 2023, n'aura disputé que 3 matchs de Ligue 1 avant d'être prêté au club portugais de Braga, puis depuis l'été dernier au Besiktas. Cette vente de Cher Ndour permet le prêt du milieu offensif espagnol Marco Asensio au club anglais d'Aston Villa, sachant que le PSG était bloqué pour ce prêt en raison d'un trop grand nombre de joueurs prêtés.
Ici en NBA, Oklahoma City et Memphis ont été intraitables la nuit dernière.
Le Thunder a fait parler la foudre sur son parquet, étriant Milwaukee 125 à 96. Cette 39e victoire permet au Thunder de garder à distance Memphis, qui a remporté un 34e succès 128 à 109 face à San Antonio, mené de 11 points par Houston au début du dernier quart-temps. New York a inscrit 46 points durant cette seule période, parvenant à l'emporter 124 à 118. Denver, lui, a encore pu profiter d'un Nikola Jokic des grands soirs pour dominer les New Orleans Pelicans 125 à 113. Le pivot serbe a réalisé son 23e triple-double de la saison, 27 points, 14 rebonds et 10 passes décisives, À l'ouest, Phoenix et Golden State restent à égalité à la 10e place. Les Suns ont battu Portland en prolongation 121-119 et les Warriors sont venus à bout d'Orlando 104-99.
Merci à Cuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Mounezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et le président rwandais, Paul Kagame, participeront à un sommet samedi, alors qu'un groupe armé M23 progresse dans l'est de la RDC. Un rapport d'experts des Nations Unies a indiqué l'année dernière que le Rwanda avait des milliers de soldats en RDC, cherchant à tirer profit de l'exploitation de minerais rares, et que Kigali contrôlait de facto le M23. Comment le Rwanda réagit-il à ces accusations? Pour Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, le gouvernement a pris des mesures pour défendre ses frontières, mais reste ouvert aux efforts régionaux pour mettre fin au conflit. Il répond à Alexandrine Holognon.
Quand la guerre s'est déroulée, moi aussi j'étais là-bas. À 2 mètres, 3 mètres de la frontière, il y a eu des combats très durs. Très durs pendant 2 jours, pendant 48 heures. Donc il y a eu des morts et des blessés dans une ville dont la population est estimée à plus d'un million. Je pense qu'il est normal qu'il y ait eu autant de morts et de blessés.
Comment réagissez-vous aux accusations de Kinshasa et de l'ONU affirmant que le Rwanda soutient le M23 dans l'est de la RDC?
C'est devenu maintenant une habitude. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement congolais qui fuit ses responsabilités, mais qui a aussi mis en place un narratif de dire que le M23, bon, aujourd'hui ça a changé. Apparemment, il n'est plus question de parler du M23, il est question de parler seulement du Rwanda qui a envahi le Congo. C'est ce que j'ai entendu dire par le ministre de la Communication. Mais je disais qu'il y a un narratif qui a été mis en place par le gouvernement congolais qui stipule que le gouvernement rwandais soutient le M23 pour aller piller les richesses de la République démocratique du Congo. Et ce narratif est repris par certains. D'un autre côté, le Rwanda a toujours exprimé ou expliqué le problème concernant sa sécurité.
Monsieur le porte-parole, les rapports indiquent la présence de soldats rwandais sur le sol congolais. Est-ce à dire que vous niez la présence de ces soldats sur le sol congolais?
Pourriez-vous vous poser une question? On nous parle de 3 à 4 000 personnes militaires depuis 3-4 mois. Jamais on nous a parlé du nombre soutenu par ces 4 000 militaires. Vous trouvez cela normal? On dit oui, le M23 est là, il est soutenu par le Rwanda par 3 à 4 000 militaires, mais jamais on nous donne le nombre de ceux qui sont soutenus. Pourquoi?
C'est-à-dire que vous niez la présence des soldats rwandais sur le sol congolais, monsieur le porte-parole?
Nous avons dit que nous avons pris des mesures pour la sécurité de la population rwandaise et du territoire du Rwanda. Les autres peuvent l'interpréter comme ils veulent, mais cela a été clair et le président l'a confirmé et je vous le confirme.
Les mesures le Rwanda est-il prises. Aujourd'hui attaqué?
Le Rwanda a été attaqué ce week-end. On a tiré sur le Rwanda avec des bombes. On a eu 15 morts, plus de 100 blessés, plus de 200 maisons détruites. Donc, c'est ce que le gouvernement a toujours dit. Donc, heureusement qu'on avait pris aussi ces mesures. Il y a eu des contre-mesures, bien sûr. Il y a des bombes qui étaient envoyées sur le territoire rwandais qui ont été détruites en l'air. Et si ces mesures n'avaient pas été prises, on aurait pu avoir plus de 100 ou de 200 morts.
Mais ces mesures impliquent-elles la présence de soldats rwandais sur le sol congolais, monsieur le porte-parole?
Implique tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des Rwandais et de son territoire.
Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Je vous le disais tantôt, en Guinée, le collectif Alumni pour la liberté de la presse s'inquiète de la disparition du journaliste d'investigation Habib Marouane Camara, critique envers les militaires au pouvoir. Reporters sans frontières appelle à sa libération immédiate et dénonce une montée des attaques contre les médias. Pour en savoir plus sur cette disparition, Jean-Roger Billon a joint à Conakry Alpha Abdoulaye Diallo, coordinateur de Alumni Guinée.
2 mois après la disparition du journaliste et manager de médias Habib Marouane Camara, le collectif Alumni demande sa libération pure et simple et son retour auprès de sa famille biologique et professionnelle. Et dans ce cadre-là, nous sollicitons le soutien, l'engagement et l'accompagnement de toutes les autorités de la République de Guinée en vue de permettre à la justice de mener convenablement son travail pour aider à libérer le journaliste et manager de médias Habib Marouane Camara. Dans ce sens-là, nous appelons tous les journalistes, managers de médias, citoyens de Guinée et d'ailleurs dans le reste du monde, à se joindre à nous pour exiger son retour sain et soft.
Est-ce que vous savez où se trouve Habib Marouane à l'heure où nous parlons?
À l'heure où nous parlons, personne, ni nous les journalistes, ni les membres de sa famille, ne sait où a été amené le journaliste et manager de médias Habib Marouane Camara depuis son kidnapping le 3 décembre 2024 à Lambagny, en banlieue de Conakry.
Que disent les autorités sur cette disparition donc?
La seule voie qui nous est parvenue, c'est celle du substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry, c'est en banlieue de Conakry, qui a annoncé que ses services ont ouvert des investigations en vue de retrouver notre confrère Habib Marouane Camara. C'est tout ce que nous avons comme information officielle pour le moment.
Alors, les attaques contre les journalistes en République de Guinée se multiplient. Que comptez-vous faire pour arrêter cet état des choses?
Notre collectif, qui est constitué de 10 journalistes, est véritablement engagé à promouvoir une presse de haute qualité, profondément enracinée dans les valeurs d'indépendance, de liberté, de sécurité, de responsabilité qui sont essentielles à l'épanouissement de la démocratie. Et donc, nous sommes debout. Nous avons commencé par une campagne numérique. Et maintenant, 2 mois après sa disparition, nous lançons un appel pressant à la liberté et à la justice parce que Marouane a joué un rôle crucial dans la couverture des enjeux sociopolitiques en Guinée. Et ses éditoriaux et tout comme ses articles mettent en lumière des questions vitales qui touchent notre société. Et en cette période de transition, Marouane doit continuer à jouer son rôle tout comme tous les autres journalistes qui éclairent l'opinion et qui permettent à la démocratie de respirer en République de Guinée sous le régime de la transition.
Alpha Abdoulaye Diallo, coordonnateur de Alumni Guinée.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
À la frontière entre le Tchad et le Darfour, la VOA a rencontré des réfugiés qui ont fait des témoignages poignants sur ce que les États-Unis ont décrit comme des actes de génocide au Soudan qui auraient été commis par les forces paramilitaires de soutien rapide FSR. Alors que les réfugiés appellent à l'action, les États-Unis ont imposé des sanctions à l'encontre des dirigeants des forces de soutien rapide et des milices qui leur sont associées. C'est un reportage d'Henry Wilkins depuis Adré au Tchad avec le récit d'Eric Manilakiza.
Nour al-Latif est une réfugiée qui, comme des centaines de milliers d'autres, a fui la région soudanaise du Darfour vers le Tchad pour échapper aux violences ethniques de ces 2 dernières années. Elle est également psychologue de formation et passe désormais ses journées dans ce camp de réfugiés situé à la frontière entre le Tchad et le Darfour, où elle apporte un soutien psychosocial aux victimes.
Le traumatisme psychologique est pénible. La perte d'êtres chers est immense. Les décès sont devenus trop fréquents. Certaines familles ont perdu leurs 2 parents. Dans ces cas-là, l'enfant devient le gardien de la famille.
Al-Latif explique qu'elle travaille avec une jeune fille de 14 ans qui est devenue chef de famille après la mort de ses 2 parents. La VOA a passé plus d'une semaine dans le camp de réfugiés d'Adré à parler aux victimes.
Pratiquement tout le monde ici dans le camp d'Adré a une histoire horrible à raconter. Des amis, des membres de la famille, des voisins ont été assassinés dans ce que les États-Unis ont appelé un génocide.
Et les États-Unis affirment que d'autres crimes contre l'humanité sont également commis. Le nom de cette réfugiée a été changé et son identité protégée par crainte de représailles si elle retourne au Darfour.
Ils ont tué ma mère et mon frère. Ils les ont tués dans ma maison. Ils ont tué beaucoup de gens.
et raconte qu'elle a ensuite été violée par des milices liées aux forces paramilitaires, les forces de soutien rapide FSR. Mohamed Idriss Adam, un artiste bien connu dans la ville d'Arfouri d'El Jenina, raconte qu'il figurait sur une liste de cibles des forces de soutien rapide. Il a fui la ville, laissant derrière tout ce qu'il possédait.
Le monde entier condamne les violations des droits de l'homme et il existe des accords dans le cadre des Nations Unies, etc. Les responsables doivent être jugés pour les crimes commis au Darfour.
Les États-Unis ont sanctionné le chef des FSR, Mohamed Hamdan Daglo, et d'autres membres importants du groupe. Pendant ce temps, le traumatisme des victimes continue, dit Al-Latif. Et pour beaucoup d'entre elles, il semble s'aggraver la nuit.
Pendant la journée, ils ont tous l'air d'aller bien, mais la nuit, ce sont les cris et le chaos dans les rues. C'est incroyable.
Bien que les Darfouris d'Adré aient eu la chance de s'échapper, ils vivent toujours avec l'horreur dont ils ont été témoins.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
L'annonce par le président Donald Trump de droits de douane sur le Canada, la Chine et le Mexique au cours du week-end a entraîné une baisse des marchés mondiaux lundi. Ils ont regagné un peu de terrain lorsque Donald Trump a annoncé qu'il reporterait d'un mois l'application de droits de douane de 25% sur les produits mexicains en échange de concessions. Il a ensuite annoncé une pause similaire avec le Canada. De la Maison-Blanche, Anita Powell nous en dit plus. Récit d'Ilidico.
L'annonce du président Donald Trump concernant les droits de douane ce week-end a été ressentie à Ottawa, Mexico, Pékin et ici, à New York, Hong Kong, Séoul et Taipei. Dans le monde entier, les marchés ont chuté lundi après que le président Trump a décidé d'imposer des droits de douane de 25% au Mexique et au Canada et 10% à la Chine. À Washington, Donald Trump a évoqué l'accord qu'il a conclu lundi avec le Mexique pour suspendre les droits de douane pendant un mois en échange de concessions de la part de Mexico visant à stopper les flux migratoires et le passage de drogue illégale à la frontière sud. Les marchés ont rapidement rattrapé leurs pertes après cette annonce. Donald Trump a également annoncé une pause similaire avec le Canada plus tard dans la journée.
Nous devons empêcher les gens d'affluer et nous devons arrêter le fentanyl. Et cela inclut la Chine. Le fentanyl a tué cette année au moins 200 000 personnes. Il arrive de Chine en passant par le Mexique et le Canada. Il faut l'arrêter. Et s'ils ne le font pas, les tarifs douaniers vont s'empirer. Ça sera bien pire.
La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a fait entendre une note d'espoir lundi.
Je suis sûre qu'au cours de ce mois, nous pourrons obtenir des résultats, de bons résultats pour votre peuple, de bons résultats pour le peuple mexicain, et c'est le résultat de l'accord. Ce fut une bonne conversation dans le respect.
Les spécialistes de l'économie estiment que les consommateurs commenceront bientôt à ressentir les effets de la crise et soulignent les parallèles historiques. Steve Kamin est maître de conférence à l'American Enterprise Institute.
Ça nous ramène aux années 30, lorsque, comme vous vous en souvenez peut-être, une guerre commerciale a été l'un des facteurs qui ont aggravé la Grande Dépression, les économies du monde entier ayant érigé des barrières pour empêcher les importations d'entrée. À long terme, le maintien de droits de douane élevés finirait par réduire le volume total des échanges mondiaux, ce qui diminuerait la concurrence et réduirait la diffusion des innovations technologiques dans le monde. Et cela pourrait finir à plus long terme par réduire le rythme de la croissance économique américaine et mondiale.
L'ambassadeur de Chine auprès des Nations Unies, Fu Kong, a déclaré lundi que Pékin se tournerait vers l'Organisation mondiale du commerce pour obtenir réparation.
Nous pensons qu'il s'agit d'une violation des règles de l'OMC. C'est pourquoi la Chine a déposé une plainte auprès de l'OMC. Nous sommes également conscients que nous pourrions être contraints de prendre des contre-mesures. Et permettez-moi d'insister sur le fait qu'il n'y a pas de gagnants dans une guerre commerciale.
Le président Donald Trump a reconnu que cette mesure pourrait entraîner une hausse des prix, mais il a déclaré que les droits de douane plus élevés en valaient la peine pour renforcer les intérêts des États-Unis.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde d'aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Mezello, à la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.